tous et à toutes, et bienvenue au podcast de GameInfo. Cette semaine, je serai en compagnie de Mordren.
Salut tout le monde.
D'ATH.
Salut, salut.
Et de Pixel.
Je ne suis pas fatigué.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de la Neo Gemini. On enchaînera ensuite avec deux modes. Nous évoquerons également le contenu online de la Nintendo Switch. On parlera de la garantie constructeur de Sony, Nintendo et Microsoft. Et enfin, on terminera par un retour d'expérience sur un petit logiciel qui nous a beaucoup impressionné, Mordren et moi. Ça s'appelle Parsec Gaming. Sans oublier nos jeux du moment. Et oui, vous n'aurez pas un, mais deux jeux du moment cette semaine. Le premier, ce sera The Swears of Ditto. Mordren et moi, on y a joué en coop et Mordren l'a torché à fond, n'est-ce pas? Et ensuite, le fameux Metal Gear Survive. Pixel s'est sacrifié, n'est-ce pas? Donc, il vous donnera ses impressions. Allez, c'est parti. On commence, Pixel, bah justement, avec la Neo Geo Mini.
Ouais, alors la Neo Geo Mini, on en avait parlé déjà dans un précédent podcast. Ça avait été teasé par SNK pour les 40 ans de la marque. On savait pas trop à quoi ça ressemblait. Il y avait déjà eu une photo il y a quelques temps, quelques jours, qui était sortie sur le net, et on pensait que c'était... les gens savaient pas si c'était un vrai leak ou c'était juste comme d'habitude avec les annonces de futures consoles. Il y a des mecs qui font des modèles 3D et qui font passer ça pour des vraies consoles. Et finalement, non, c'était une vraie image leakée de la vraie console future. Et la Neo Geo Mini porte bien son nom puisqu'elle est vraiment minuscule. C'est absolument incroyable parce que c'est un mini bar top. Et c'est un mini bar top qui est absolument minuscule parce qu'il fait 13,5 cm de largeur, c'est pas très grand, 10,8 cm de profondeur et 16,2 cm de hauteur. C'est vraiment pas grand, l'écran fait 3,5 pouces. Alors, il y a une bonne chose, apparemment il est 4 tiers, il est pas 16 neuvièmes, parce que c'est plutôt bizarre, sur certaines photos il a l'air 4 tiers, et sur d'autres, il a l'air 16/9, ce qui me paraît un peu bizarre.
La suite va vous étonner.
La suite va vous étonner. cliquez, quoi. Il y aura deux coloris. Un pour l'international, un pour le Japon. Et pour l'international, on l'aura blanc et noir. Enfin, plutôt anthracite, on va dire. Pour le Japon, ça sera bleu, blanc, rouge. Voilà, cocorico, peut-être, je ne sais pas.
En gros, c'est la Neo Geo MVS, en fait. Hein.
Voilà, une espèce de mini borne d'arcade Neo Geo, avec un stick absolument minuscule, et une prise HDMI, on pourra la brancher sur la télé, heureusement. Il y aura une sortie jack pour l'audio, et il y aura deux entrées manettes, mais on ne sait pas de quel format il s'agira. Et il y aura bien 40 jeux dessus. Mais on n'a pas la liste finale, et pas de prix, ni de date.
Ça commence à faire pas grand chose du coup.
Ouais, il y a pas grand chose. Vu la forme de l'objet, à mon avis, ça va coûter cher, hein, mais...
Et j'ai lu, en fait, les premiers retours sur la page Facebook de Neo Geo, enfin, de SNK plutôt, et c'est pas glorieux. Les gens commencent déjà à gueuler. Parce que ça fait cheap plastique made in China. D'ailleurs, je suis sûr que ça va être fabriqué en Chine, de toute façon.
De toute façon, tout est fabriqué en Chine.
Oui. Comme toutes nos consoles, hein.
Comme toutes nos consoles. Mais ça n'a pas l'air de respirer la qualité. Alors, les photos qu'on voit, c'est un modèle 3D, hein. On attend de voir des vraies photos du vrai modèle physique, mais le design ne me plaît pas, les couleurs ne me plaisent pas, le stick est trop petit. Bon, alors bien sûr, tu pourras brancher sur la télé, mais tu devras rajouter une manette.
En fait, j'ai plus l'impression que le côté borne d'arcade, entre guillemets, c'est plus pour la forme que, voilà, enfin, ils ont fait ça pour avoir un truc qui a un look borne d'arcade. Mais l'objectif, c'est de le brancher sur la télé, en vrai, quoi.
Pourquoi mettre un écran, alors?
Pour la forme, tu vois, pour dire, voilà, on a fait une mini borne d'arcade, mais ouais. Je pense que l'objectif, c'est quand même le brancher sur la télé, quoi, c'est tout.
Mais bah, en face, le petit écran, c'est genre, tu vas te faire ton petit café, tu te balances une petite partie de King of Fighters, tu poses ça sur une table.
Un objet, quoi.
Ouais, voilà, enfin, tu sais, genre, sur ton meuble de cuisine et tout ça. T'es pas obligé d'avoir ça, on va dire, branché à ta télé pour pouvoir lancer une partie. Par contre, l'écran, t'as dit, c'était 3,5 pouces, ça fait environ 7 et 8 centimètres, ouais. Quoi, donc.
C'est un écran de 3DS, quoi.
Ouais, voilà, donc c'est vrai que ça fait vraiment cheap quand on regarde la qualité. Pourquoi ne pas sortir tout simplement le design de la Neo Geo cartouche? C'est le côté un petit peu nostalgique d'avoir la machine d'époque, en format miniaturisé bien sûr, et puis que tu brancheras ta télé de cette manière-là, parce que c'est vrai que là, ça fait un bar top, mais vraiment le bar top du pauvre. J'ai déjà vu des bornes d'arcade qui ont été faites par des passionnés,
après,
qui sont beaucoup plus impressionnantes, quoi.
Je vais être l'avocat du diable là, mais ils ont repris un design d'une borne officielle, hein, donc c'est pas comme si le design du bar tap il sortait de nulle part, quoi, en fait. Tu vois, enfin,
ah non, bien sûr, mais après,
ils ont fait ça dans un certain esprit, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus. Alors, je suis d'accord par contre pour dire que le design de la borne originale, il faisait déjà cheap, mais. Je trouve quand même qu'ils ont essayé de se creuser un peu la tête, quoi. Enfin, je trouve le produit déjà plus original qu'une NES Mini. Moi, enfin, le produit en lui-même me choque pas plus que ça, quoi. Si tu veux, ouais, le plastique fait cheap. Bon, après, quand tu vois la NES Mini, ça m'envoie pas plus de rêve non plus, quoi.
Ouais, mais est-ce que ça, vraiment, mis à part le côté, on va dire, collection, tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont jouer là-dessus? Le stick, il est vraiment collé par rapport aux autres boutons?
Non, mais je suis tout à fait d'accord, hein. Mais en même temps, c'est un peu comme la NES Mini, hein. Les gens l'achètent pour la collection, pas pour y jouer, hein, en vrai.
Ouais, mais après la NES Mini, on va dire que il y a beaucoup de gens qui ont fait découvrir ça, par exemple, à leurs gamins. Parce qu'au moins, la NES Mini, t'avais une manette NES de l'époque, tu vois, c'était pas une manette NES miniaturisée non plus. Là, vraiment, ça a l'air ultra galère pour jouer sur la borne d'arcade, quoi.
Mais l'objectif, c'est pas de jouer dessus, de toute façon. Je veux dire, tu vas la brancher sur la télé, tu vas brancher une manette dessus, point, voilà. Après, il faut voir les manettes qui vont fournir avec, effectivement.
Et il y a encore une news super top méga cool, c'est qu'il y aura pas d'alimentation livrée avec la console.
Oh putain.
Ouais, non, ça par contre, c'est un pur scandale, hein. Franchement, faut arrêter le délire là.
Non, merci Nintendo qui avait fait ça avec les premières versions des 3DS où il fallait racheter un adaptateur pour pouvoir jouer à la console, et ça j'ai toujours trouvé ça scandaleux en fait.
Alors pas la toute première. Hein.
C'était pas la première 3DS.
Non non, c'était les 3DS XL.
Ouais, mais quand même, enfin, je trouve ça quand même scandaleux. T'achètes un produit, t'as pas le chargeur, quoi. C'est comme si demain t'achètes un smartphone. Bah non, faut rajouter 40€ pour que tu puisses brancher ton téléphone, quoi.
Il me semble que les NES Mini, c'est la même chose, sauf que t'as juste un câble USB.
Bah quoi, bande de connards, vous avez tous un smartphone, non?
Ouais,
bah
voilà, c'est ça. Si c'est comme ça que SNK pense la jouer avec sa Neo Geo Mini, ça sera juste dans l'air du temps, a priori. Mais voilà.
Bon. Allez, on va enchaîner maintenant, on va passer du côté modding de la force, et je vais vous parler de deux modes. Le premier, c'est le Skyrim Supplemental Patch. Alors, petite précision tout d'abord, c'est un mod pour la version de base de Skyrim, ce n'est pas pour la dernière version qui était sortie, la comment elle s'appelle, Special Edition, je crois que c'est ça, qui avait un nouveau moteur, etc. Enfin bref, c'est vraiment pour le jeu de base. Après, normalement, de ce que j'ai lu, la conversion se fait, il y a des tutos qui expliquent ça sur le net, donc ça se fait assez facilement. Donc, qu'est-ce que ça fait le Skyrim Supplemental Patch? Eh bien, vous savez, Skyrim, c'est un jeu qui est assez touffu en termes de contenu, où il y a plein d'objets placé un peu partout, etc. Et ça arrive régulièrement que dans le jeu, par exemple, tu sais, t'es un arbre qui soit pas tout à fait sur le sol, ou que t'es une vasque de flammes où la texture est pas bien placée, ou ce genre de choses. Et du coup, il y a un fan qui s'est dit, bah, je vais faire un taf comme ça qui vient prendre quelques années et en gros je vais corriger tous ces petits détails. Genre là il y a une jointure de texture qui s'est mal faite, je vais la corriger. Là il y a cet objet qui est mal placé, je vais bien le placer, etc. Donc il y a un acharné comme ça qui s'est dit je vais faire un mod qui est absolument génial parce que c'est le genre de détails que quand tu les vois ben ça te tue un peu l'immersion. Mais par contre c'est un mod un peu ingrat je trouve, c'est-à-dire que déjà, le boulot, il est titanesque. Mais en plus, c'est le genre de mode, une fois que tu l'as installé, en fait, tu le remarques plus. C'est ça tout le paradoxe de ce mode-là. C'est-à-dire que si le mec a bien fait son boulot, ben, tu le vois plus, en fait. Voilà. Ouais. Donc, moi, je tenais à saluer ce travail-là, parce que franchement, c'est juste super impressionnant, quoi.
En fait, c'est un mec qui a fini le jeu pour Bethesda, quoi.
Comme tant de modeurs.
Comme tant de modeurs, voilà. Qui ont bossé pour Bethesda gratuitement. Bon, après, sans vouloir défendre Bethesda, il y a plein de jeux AAA qui ont le même genre de problème et qui n'ont jamais corrigé ce genre de bug d'affichage. Hein. Donc, sur ce coup-là, en tout cas, c'est pas les seuls, malheureusement, qui ont ce genre de soucis. Par contre, il y a un autre mode que je voulais évoquer avec vous. C'est un mode pour un MMO. Une fois n'est pas coutume. Et ce MMO, c'est Final Fantasy XI. Il y a un mec qui s'est dit, putain, les textures dans le jeu, c'est pas possible, c'est trop dégueulasse. Du coup, bah, je vais me sortir les doigts, je vais refaire toutes les textures du jeu. Voilà. Je vous mettrai un lien vers sa chaîne YouTube, parce qu'il a une chaîne YouTube. Enfin, c'est assez bizarre d'ailleurs, le gars a pas de page, vous savez, sur les sites comme Nexus, etc., pour télécharger le mod. Faut aller sur sa chaîne YouTube pour le télécharger. Ma foi, il y a des vidéos comparatives et le mec avait bien bossé, quoi, quand même. Hein. En plus, j'ai découvert tout un univers, je pensais pas que ça existait, ce genre de truc. Mais c'est vrai que même les mémos, il y a des fichiers qui sont hébergés en local, dont les textures. Donc, si tu modifies les textures... du jeu, ben voilà. En tout cas, encore une fois, un taf impressionnant, quoi.
Ils ont fermé le jeu, en fait. Du coup, comment il fait pour y jouer? Il joue sur des serveurs privés?
La version PC, elle n'est pas fermée encore. C'est les versions consoles qui ont été fermées il n'y a pas longtemps, là. Mais la version PC continue de tourner et continue de grappiller des sous. Voilà, donc bon. En tout cas, dans les deux cas, bravo à eux. Donc le Skyrim supplémental patch, ça a été fait par un certain Brightag, n'est-ce pas? Et le second mode, ça a été fait par un certain Amelilla. Voilà, donc franchement, bravo les gars, ça c'est du sacré taf. Bon, Morren.
Oui.
Il est temps de passer du côté de Nintendo. Ils nous ont parlé de leur plan pour le jeu en ligne, c'est ça?
Alors, on a un certain nombre de nouvelles infos qui ont été données par Nintendo, notamment le nom de ce service en ligne. Alors attention, énorme originalité, ça va s'appeler le Nintendo Switch Online. Wow. Mmh. Bon, évidemment, ce qui va plus nous intéresser, c'est les pratiques tarifaires. On savait d'ores et déjà que Nintendo avait l'intention d'afficher un prix... plus bas que ses concurrents Microsoft et Sony.
C'est d'autant plus qu'on sait que ça va être terriblement naze.
Voilà, désormais c'est officiel.
Oh, tes mauvaises langues.
On sait désormais en tout cas que l'abonnement un mois vous coûtera $3.99. Je vais vous communiquer que les prix en dollars puisque c'est comme ça que ça s'est fait. Et bon, on suppose que ça va être à peu près la même chose en euros, mais bon, en l'absence de confirmation, je vais vous donner les prix en dollars. L'abonnement 3 mois, ça sera $7.99 et l'abonnement 12 mois, donc personnel, ça sera $19.99. Pourquoi je dis abonnement personnel de 12 mois? C'est parce qu'il y aura un pack familial d'abonnement du coup 12 mois également, à $34.99, mais qui vous permettra d'inviter en plus de vous-même 7 personnes supplémentaires dans un groupe famille. Donc c'est un petit peu comme le fonctionnement des abonnements multi-écran chez Netflix.
Ou genre Office 365, où tu peux acheter voilà. Un pack famille aussi pour c'est plusieurs ça. Ordinateurs.
Du coup, c'est 8 personnes qui peuvent profiter du mode online de la Nintendo Switch pour $34.99. Voilà, donc ça c'est pour les prix. Ensuite, qu'est-ce qui sera contenu là-dedans? Bah, en dehors évidemment du simple jeu en ligne sur les jeux qu'il propose, typiquement Splatoon 2 et on suppose le prochain Smash Bros, et évidemment les Mario Kart, etc. Il y aura des sauvegardes dans le cloud. Pas l'intégralité des jeux ne vont supporter les sauvegardes dans le cloud. On ne sait pas encore lesquels le feront, lesquels ne le feront pas. Certains jeux, notamment Splatoon 2, auront également des applis dédiées qui profiteront du Nintendo Switch Online, donc je suppose avec le branchement de votre compte, etc. Et dernière chose, inclus dans votre abonnement mensuel, vous aurez accès en fait à des jeux rétro gaming. Donc là, les seuls qui ont été annoncés, c'est des jeux NES. On ne sait pas si ça ira au-delà de l'ère de la NES ou pas. Au lancement du Nintendo Switch Online, il y aura un accès à 20 jeux NES. À savoir que tous ces jeux ont été... agrémentés pour l'occasion, enfin en tout cas la plupart, je sais pas si tous le feront, certains en fait auront des modes en ligne, typiquement quand on parle de Dr. Mario, il sera possible de jouer en online avec une autre personne qui est abonnée Nintendo Switch Online en 1 contre 1 par exemple, ça c'est possible. Je vous donne vite fait la liste des jeux NES qui ont été annoncés, il y a Soccer, Tennis, Donkey Kong, Mario Bros, Super Mario Bros, Balloon Fight, Ice Climber, Dr. Mario, The Legend of Zelda et Super Mario Bros 3. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur Nintendo Switch Online et j'ajoute juste un tout petit truc, c'est que, a priori, la console virtuelle n'arrivera pas sur la Nintendo Switch. Voilà.
Bah oui, hein, il faut bien refourguer les jeunesses sur le Nintendo Online, donc... Bah, je voulais juste poser une question au premier concerné, parce que t'es le seul d'entre nous à avoir une Switch ici, donc nous les autres on s'en fout un peu, hein, n'est-ce pas? Tu vas craquer ou pas?
Alors, j'ai pas vraiment réfléchi à la question, parce que moi je joue pas spécialement aux jeux en ligne en général, et puis je possède pas les jeux en ligne sur Nintendo Switch, en dehors de Mario Kart Deluxe, dont je me fous complètement du online, donc a priori... je le prendrais pas pour ça.
Tu joues surtout en coop local, toi, j'ai l'impression. En fait.
Voilà, moi, je joue surtout en coop local, alors surtout à Mario Kart en coop local, évidemment. Mm. Donc après, effectivement, si à terme, il y a plus de jeux qui permettent de jouer en ligne, pourquoi pas. Le côté jeu rétro, ça peut être sympa, mais si c'est uniquement ça, mon utilisation du mode en ligne, ça fait quand même un peu chéro juste pour du jeu rétro. Donc pour l'instant, ça va être point d'interrogation. J'attends de voir ce qu'ils vont annoncer sur le catalogue rétro, parce qu'effectivement, s'il y a éventuellement d'autres choses que la NES, par exemple, ça pourrait éventuellement me pousser à l'achat. Donc j'attends de voir. Pour l'instant, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre.
Et puis aussi, faudra quand même attendre de voir ce qu'ils vont faire au niveau de l'interface, tout ça, quoi.
Bien sûr.
Quand tu fais payer, il y a quand même un service minimum à faire, quoi, on va dire.
Ouais, et mais ne serait-ce que la qualité du service, là, on parle de l'interface, mais ne serait-ce que la stabilité des serveurs, etc., ça, c'est hyper important, et c'est, encore une fois, un gros point d'interrogation par rapport à Nintendo, qui, d'ordinaire, ne sait pas faire ça. Et alors, le cloud, je sais pas comment ils vont faire, mais ça va être... je pense que Nintendo, déjà, et c'est pour ça que c'est moins cher que toute la concurrence, a un travail à faire à convaincre les gens que leur service peut être intéressant. Alors le problème, c'est que la première chose dont ils nous ont parlé en fait sur le online, c'était à l'époque de Splatoon et c'était le voice chat. Alors faut voir la tronche du truc, l'usine à gaz pour se parler en fait sur Splatoon. Du coup, si leur online est du même acabit, ça peut faire peur.
Bah d'ailleurs, pour parler online sur les Switch, il faut pas passer par son smartphone.
Si, justement.
Ah oui, dans ce cas-là, tu vois, c'est un petit peu con, quoi. Après, ouais. Moi, vraiment, par rapport à ce service-là, je trouve que c'est vraiment cher pour ce que ça propose. Les jeunesses, super.
Ah, quand tu vois le prix d'un jeunesse à l'époque sur la Virtual Console, pas tant que ça, hein.
Ouais, mais regarde, là, c'est des jeux qui ont été rentabilisés maintes et maintes fois.
Ouais, mais tu sais comment Nintendo se comporte vis-à-vis de ces jeux-là.
Bien sûr, mais après, moi, je pense que, tu vois, le truc qui me sidère le plus, c'est surtout l'abonnement 12 mois, où il y a une distinction entre l'abonnement classique et l'abonnement familial. Alors que sur les autres, par exemple, sur que ça soit sur PS4 et Xbox One, toutes les personnes qui sont dans le même foyer, qui sont connectées à ce compte-là, bah peuvent avoir accès au catalogue de la machine.
Et là, c'est autre chose. Je me suis peut-être mal exprimé, mais c'est pas par console, en fait, que tu connectes 8 personnes. C'est 8 consoles différentes.
Oui, avec les autres constructeurs, c'est ça. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai pas envie de payer le PSN. J'ai un ami à moi qui a le PSN, et j'ai ajouté juste son compte sur ma PS4.
D'accord.
Et du coup, moi, je peux jouer au PSN gratuitement, tu vois. Et je peux même télécharger les jeux du PSN Plus. Okay. Mais par contre, tu vois, que Nintendo fasse la distinction entre l'abonnement 12 mois, on va dire, pour une personne, et l'abonnement 12 mois pour un pack familial, c'est un peu prendre des gens pour des cons, quoi.
D'accord, c'est intéressant. Ça, je connaissais pas cette situation sur PS4 et Xbox One, vu que j'en ai pas. Je pensais que c'était un peu inédit, ce système de fonctionnement-là.
Après, la nuance, peut-être, c'est que j'imagine que quand on y joue, tu peux pas jouer, toi.
Ah, si, si.
Quoi?
Ah, d'accord.
Sérieux?
Ah si, je peux jouer avec mon pote qui joue, je peux jouer avec lui-même.
Sérieux?
Donc c'était testé et approuvé. Ah ouais.
Putain, c'est
oui,
incroyable. Tu vois, tu m'as
parlé.
OK, quelque
d'accord.
Chose.
Je crois que même par contre, c'est limité à 4 personnes.
D'accord.
Donc si vous avez pas envie de payer le PSN, demandez à quelqu'un de votre famille, un ami, si il y a le PSN Plus, il faut qu'il rajoute le compte sur la console et puis à partir de ce moment-là, vous pouvez y jouer gratuitement au jeu en ligne quoi. Donc c'est quelque chose qui est intéressant à savoir et surtout ne donnez pas d'argent à Sony ni à Microsoft quoi.
OK. Surtout qu'ils ont augmenté les prix en plus.
Ouais.
Bon, messieurs, on va enchaîner par contre.
Ouais.
On va maintenant parler de la garantie constructeur qui s'est fait épingler aux États-Unis, n'est-ce pas ?
Alors, c'est la FTC, donc la Federal Trade Commission, donc la Commission fédérale du commerce aux États-Unis, qui a épinglé 6 constructeurs, donc pas uniquement de jeux vidéo, mais dans ces 6, il y a Sony, Microsoft, Nintendo, Hyundai, HTC et Asus, sur leurs conditions en fait de garantie. Et donc pour les 3 qui nous concernent, hein, donc Sony, Microsoft et Nintendo, c'est lié aux garanties de leur console qui serait illégale. Sous 30 jours, ils sont obligés donc de se plier aux demandes de la FTC. A priori, il n'y a aucun des constructeurs qui ne s'est plié à ces demandes pour l'instant. Donc je suppose qu'il y aura des conséquences judiciaires à ce choix. Juste pour préciser en quoi en fait ces garanties-là sont pointées du doigt par la FTC. En ce qui concerne donc la PS4 de Sony, ce qui gêne la FTC, c'est les stickers garantie annulés si retirés. Sur le site de Nintendo, il y a écrit « La garantie ne s'applique pas à ce produit si ce produit est utilisé avec des pièces non vendues ou autorisées par Nintendo. » Donc ça gêne la FTC forcément, puisque ça dit au consommateur « Tu n'as pas le droit d'utiliser des choses qui ne sont pas brandées Nintendo. » Et c'est à peu près la même chose chez Microsoft, sauf que c'est du côté de la réparation. puisque sur le site officiel d'Xbox, on peut lire « Microsoft n'est pas responsable et la garantie ne s'applique pas si votre Xbox One ou votre accessoire est réparé par quelqu'un d'autre que Microsoft ». Donc ça, ça gêne énormément la FTC qui voit en fait chez ses constructeurs une imposition en fait d'un monopole, que ça soit sur les réparations et le hardware quoi.
Pour Microsoft, c'est sûr que c'est quand même un petit peu embêtant si tu veux aller la faire réparer en magasin que ta garantie saute quoi.
Ouais.
Mais Microsoft en tout cas, ils ont un service qui est de très bonne qualité. Moi avec ma Xbox 360, ça a été ultra rapide pour la réparation. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Par contre, Sony, c'est le pire quoi, c'est juste tu retires un bout de plastique, la garantie saute. Et Nintendo, faut savoir également qu'il y a des gens qui ont vu leur garantie sauter parce qu'ils ont utilisé un dock alternatif qui n'était pas un dock Nintendo. Et du coup, Nintendo a dit, ah,
c'est pas vu de ça, quand même.
Voilà. Parce qu'en fait, il y a une mise à jour qui a été faite sur la Nintendo Switch, qui rend obsolète les docks qui sont sortis dans le commerce, qui sont pas brandés Nintendo.
C'est ouf.
Et du coup, ça a briqué la console, et Nintendo s'est dit, on repère pas, vous avez pas utilisé notre dock vendu chez nous. Mm. Vous avez utilisé un dock,
C'est scandaleux, ça.
Ouais, non, mais ça, c'est vraiment du foutage de gueule, là, par contre.
Mm. Ouais, mais c'est un truc qui est très très prégnant chez Nintendo, dont les consoles en fait sont accompagnées de toute une galaxie en fait d'accessoires, et donc particulièrement la Switch, la Wii, etc. Et donc évidemment les constructeurs tiers se jetaient dessus pour construire des choses autour de leur console, et donc forcément si Nintendo dit ouais, sauf que si tu fais fonctionner ta console avec ces accessoires là et que ta console elle marche plus, eh ben tant pis pour ta gueule, c'est quand même très gênant.
Ah oui, non, mais surtout que là, c'est une mise à jour, quoi. Ouais. Tu vois, c'est même pas comme si t'avais essayé de démonter la console ou faire quelque chose d'autre. C'est vraiment une mise à jour qui a...
C'est encore mieux que les batteries d'iPhone.
Ouais, c'est fort. Hein. C'est très fort.
Ah, après, si tu veux un truc pire, c'est les batteries Samsung qui t'explosent à la gueule.
Non, mais Samsung, c'est un défaut de fabrication, tu vois. Apple, c'était volontaire et Nintendo, bon, bref. Voilà, non, mais Apple, Nintendo, il y a des similitudes, hein, encore une fois. C'est troublant. Allez. On va terminer, Morren, avec un petit retour d'expérience avant de passer au test de notre jeu du moment. Pourquoi on voulait vous faire ce retour d'expérience? Parce que, bon, on aurait pu le faire en même temps que le test de The Swords of Ditto, parce que ça fait un peu partie de l'expérience qu'on a eue tous les deux, n'est-ce pas? On voulait vous parler de Parsec Gaming. Parsec Gaming, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement un petit logiciel, un peu comme ce qu'il y a sur Steam, vous savez, quand vous voulez streamer le contenu de Steam sur un autre ordinateur. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous streamez ce qu'il y a sur votre ordinateur sur un autre poste, soit vous louez des serveurs chez Parsec pour que le serveur stream chez vous et chez un pote, par exemple. Alors, c'est en l'occurrence cette dernière option qu'on a choisie. Pourquoi on a choisi cette option? Parce qu'il se trouve qu'un certain Mandren n'a pas Windows 10 sur son poste, n'est-ce pas? Oui, parce que je précise que Parsec Gaming ne fonctionne que sur Windows 10. Quoique Windows 8, j'ai un doute. Enfin bref, il a bien fallu s'adapter, n'est-ce pas, hein, Morren n'ayant qu'un vieux Windows 7 sous la main. Donc du coup, on a loué un serveur chez Parsec. Je vais pas vous parler de la tarification, parce que honnêtement, même moi, j'ai pas compris grand-chose, en vérité.
C'est pas très clair, ouais.
C'est pas très clair, et c'est un des points noirs du service. Par contre, ce dont on va vous parler, c'est... est-ce que ça marche bien, ce truc? Et ma foi, je sais pas ce que t'en penses, Morren, mais impressionné.
Ouais, je suis assez convaincu, ouais. Alors, moi, j'ai été bluffé par l'absence de latence, en fait, finalement. On s'est connecté clairement avec deux connexions diamétralement opposées, puisque moi, j'ai la fibre, et tirant à une connexion qui est beaucoup plus modeste.
Merdique.
Et pour le coup, toi comme moi, en termes de latence, c'était vraiment assez bluffant. En revanche, du coup, forcément, tu vas avoir des concessions en termes de visuel, quoi.
Bah oui, parce que là, moi n'ayant pas une connexion géniale, c'est-à-dire que dès que quelqu'un allume la télé chez moi, c'est mort, hein, je peux plus jouer à Parsec, hein, c'est même pas la peine d'y penser.
Ouais.
Mais quand la télé est éteinte, par contre, ça marche bien en 720p. Mmh. Voilà. Donc après, il a fallu que je fasse quelques petits réglages au niveau de l'encodage vidéo, etc. Il y avait par moments quelques petits artefacts qui apparaissaient, mais franchement, ça va. Sur une télé, ça passe. Et surtout, pour moi, ce qui était essentiel sur Swords of Ditto, vu que c'est un jeu quand même qui est orienté très action, c'était d'avoir une latence qui était imperceptible. Mm-hmm. Et pour le coup, j'avais l'impression de jouer en ligne avec toi, quoi, en fait.
Ouais, c'est vraiment ça. Parce que faut bien voir, et on en parlera tout à l'heure, mais Swords of Ditto, c'est un jeu qui est prévu, en fait, pour être joué en coop, mais en local. Il n'y a pas de possibilité de jouer en ligne. Et du coup, c'est vrai que cette solution-là nous a été très, très utile, quoi. Forcément, sinon... ça aurait pas été possible de tester le co-op sur ce jeu-là. Juste à noter ce point-là que, alors, je sais pas si c'est... Bon, c'est probablement moi, hein, ma guigne, mais j'ai eu des problèmes de reconnaissance de mon pad Xbox 360. Toi, t'en as eu aucun.
Sur le pad Xbox One, aucun souci. Voilà. Perso.
Pourtant, ils disent que les modèles Xbox, donc que ça soit la 360 ou la One, sont plug and play en fait sur Parsec. Moi, j'ai eu des soucis. Donc, on va dire que c'est ma guine légendaire avec la technologie qui a fait des siennes.
Bon, par contre, si jamais vous rencontrez le souci de Morden, juste une petite suggestion, sur le site de Parsec, il donne tout un tas de choses à faire pour résoudre ce genre de souci. Allez directement à la dernière section qui s'appelle « Et si rien d'autre ne fonctionne ?»
C'est ça.
On aurait dû commencer par ça, en fait, parce que dès qu'on a fait ça, ça a fonctionné direct, ton pad 360. Mmh. Donc, voilà. Bon. Du coup, maintenant que ça s'est dit, pour que vous ayez une idée un peu des conditions dans lesquelles on a joué, n'est-ce pas ? On va passer au jeu du moment, et puis on passera ensuite au test de Pixel aussi. Et ce jeu du moment, c'est The Swords of Ditto. Morren, est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept de The Swords of Ditto ?
Ouais, alors Swords of Ditto, c'est un jeu déjà qui est développé par One Bit Studio, qui est édité par Devolver. En gros, c'est une hybridation entre Zelda et le roguelike. Alors le tout dans un écrin en fait, tout en 2D, très animation américaine dans l'esprit. Il y a un côté presque Adventure Time dans le visuel. Je vous passe le scénario parce que c'est vraiment pas intéressant.
On en reparlera quand même.
Ouais, on en reparlera peut-être. Mais tu incarnes en fait un petit personnage qui change à chaque fois du coup, doté de pouvoirs qu'on appelle les pouvoirs de l'épée. Et tous les 100 ans en fait, tu as une épée qui va se lever contre le boss final en fait du jeu qui s'appelle Mormo, qui est une espèce de sorcière. Mais pour la battre, il a que 4 jours sur le mode normal. Dans ces 4 jours que tu te trimbales en fait dans le petit monde tout autour de toi, c'est un monde qui est procéduré, qui est généré aléatoirement, pardon, dans lequel tu vas trouver du coup du stuff, donc des nouveaux objets, et des nouvelles, pas des nouvelles capacités, mais des bonus de stats à ton personnage. Chaque run se termine soit par ta mort, peu importe où elle survient, soit par la victoire face à Mormo, donc le boss final.
Et donc, tu reviens 100 ans plus tard, avec la map qui a changé. Voilà. D'ailleurs, ils avaient vendu une feature comme quoi, quand tu revenais, en fonction de si tu avais perdu ou gagné, le monde était un peu plus gris ou un peu plus joyeux, etc. Si tu me confirmes que c'est le cas.
Ouais, je te le confirme. C'est simple, quand tu gagnes, le monde dans lequel tu pop juste après, bah c'est un monde dans lequel déjà tu as la statue de l'épée qui a vaincu. Donc, tu vois que le village dans lequel tu pop, bah, il est en bon état. Par contre, si tu meurs, l'épée, tu vas pas la récupérer sur une statue victorieuse, mais dans un cimetière, puisque l'épée est morte. Et le village, qui est le hub central du jeu, il est beaucoup plus gris, et puis les bâtiments sont un peu fissurés, enfin, hein, tu sens le truc un petit peu plus à l'abandon, quoi. Donc oui, effectivement.
Et finalement, je trouve que c'est là où le jeu est le plus réussi, c'est-à-dire que c'est un jeu que... quand tu tombes dessus, il a du charme, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui se dégage. La bande son est vraiment choupimi, à tomber par terre. Les graphismes, enfin la direction artistique surtout, est vraiment charmante.
Ouais.
C'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est vraiment, je suis tombé sur le charme de ce jeu.
Ouais.
Et finalement, c'est ça qui te donne envie d'avancer, quoi, parce que ouais, tu te sens bien dans le jeu, quoi.
Imaginez un mix entre bah du Zelda 2D à la A Link to the Past, finalement, avec du monster design un peu à la Pokémon. Il y a
c'est
un peu de ça. Et puis derrière, en fait, c'est des mécaniques de roguelike, donc tu vas forcément avoir un rappel de Binding of Isaac, des trucs dans ce genre-là, quoi. Et c'est là un petit peu où tu vas entrer dans le côté un peu problématique du jeu, qui fait que le jeu a le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'il a pas suffisamment pensé à ce qu'il allait te proposer. Je vous parlais de différents runs de jeu. Pour atteindre la vraie fin, entre guillemets, du jeu, il faut battre 5 fois minimum le boss final. Chaque run te dure minimum 3 heures. À chaque run de jeu, ce que tu dois faire, c'est minimum 4 donjons. Et ensuite, t'as un donjon final qui mène au boss final. Donc tu as un donjon où tu vas récupérer un objet, qui va ensuite être utilisé dans un autre donjon qui va être utile pour affaiblir le boss final. Et ensuite, t'as un troisième donjon qui te donne une autre arme, qui va ensuite être utilisé dans un quatrième donjon, qui va ensuite affaiblir le boss. Et ensuite seulement, tu as le droit d'aller te battre contre le boss final.
Sauf si tu ne réussis pas à faire ça dans le temps imparti, et dans ce cas, tu es téléporté directement dans le donjon final.
Ouais.
Mais là, par contre, tu vas en chier un petit peu plus.
Tu peux aussi choisir de dire, écoutez, moi, je suis prêt, j'ai envie de me la taper tout de suite, ce qui est une très mauvaise idée. Mais tu peux tout à fait le faire. Par contre, chaque donjon est bloqué par un système de level, c'est-à-dire que quand tu pop dans une nouvelle run, le premier donjon, en fait, il est bloqué niveau 1. Le deuxième donjon, ça sera niveau 2, le troisième donjon, ça sera niveau 3, le quatrième donjon, ça sera niveau 4.
Et
à chaque fois que tu fais un nouveau run, tu dois grinder 4 levels. Ce qui fait qu'en fait, t'es bloqué dans le jeu pendant un certain nombre d'heures avant de pouvoir atteindre le boss final. Et ça devient assez rébarbatif très très vite.
Et pourquoi on disait qu'il a le cul entre deux chaises? Parce que là, fondamentalement, ce que tu critiques, on pourrait te dire, mais ouais, mais du coup, oui, c'est un roguelike, quoi. Mmh. Oui, mais le problème, c'est que à côté de ça, on parlait d'histoire tout à l'heure. C'est un jeu qui te sort des dialogues tout le temps, et qui te ressort tout le temps les mêmes dialogues, surtout. C'est ça
à chaque run, c'est toujours les mêmes.
C'est toujours les mêmes, à chaque fois. Et ça, c'est problématique dans un roguelike. Enfin, à un moment donné, je veux dire, il faut faire un choix, quoi. C'est-à-dire, soit tu veux raconter une histoire, et dans ce cas-là, si tu veux la raconter dans un roguelike, il faut te démerder pour qu'elle se renouvelle à chaque fois. Soit tu fais un jeu qui n'est pas un roguelike et où tu racontes ton histoire avec un déroulement normal, etc. Ou alors tu fais un jeu à la Zelda Majora's Mask.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas vraiment un roguelike, il y a une idée d'exploration, etc. Mais par contre, tu te retapes pas tout le temps les mêmes dialogues à chaque fois et tu découvres le jeu au fur et à mesure à chaque fois que tu recommences, quoi. Et moi, je pense que c'est un des gros problèmes qu'a eu le jeu, c'est-à-dire que, à mon avis, beaucoup de gens s'attendaient à une espèce de Zelda Majora's Mask, et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment un roguelike pur sucre, quoi. C'est-à-dire, t'as pas genre, tu sais, un level design un peu chiadé, où t'as des énigmes liées au fait que tu vas recommencer, etc. Non, 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 c'est pas du tout réfléchi comme ça. C'est vraiment un roguelike basique où tu vas aller buter des mobs dans un donjon, et qui est très très répétitif, quoi.
C'est très répétitif parce que, au bout, allez, je vais être gentil, de la deuxième ou troisième run, tu vas voir tous les archétypes, en fait, de génération procédurale, et surtout dans les donjons, c'est quasiment tout le temps les mêmes salles. Et même parfois dans la même run, on a eu le cas hier quand on jouait avec Tyran, on a fait deux donjons coup sur coup, et c'était exactement le même layout de donjon. Parfois au mob près, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça devient répétitif, et le fait qu'il manque parfois de variété, notamment dans le système de build, en fait, de bonus de stats, etc.
Mais même pas que ça. Enfin, les boss, c'est un scandale, quoi. Enfin,
ouais.
Tu m'avais dit, il y a deux boss secondaires, je crois.
Il y a deux boss secondaires. Ouais.
Et nous, on a joué pas beaucoup ensemble en coop, hein.
Non.
Et on a croisé trois fois le même boss, je crois.
Trois fois le même boss, ouais. Du coup, en deux parties différentes.
Voilà.
Mais c'est scandaleux. Parce que du coup, t'as deux donjons à mini-boss. Donc dans une même run, et sur cette même run, en fait, tu croises deux fois le même boss. ça a pas de sens, tu vois. Enfin, donc toi, tu n'as jamais vu le deuxième boss.
C'est ça.
Et en plus de ça, parce qu'on dit c'est les mêmes, mais ok, soit. Mais le pire, c'est qu'en termes de design, les boss ils sont nuls à chier. Tu comprends tout de suite en fait ce qu'il faut que tu fasses, et c'est hyper facile. Et alors je te parle pas du boss final de la toute fin du jeu, quoi. C'est nul, nul.
Pour moi, c'est un jeu qui est pas fini en fait. Tu le vois, je veux dire, les mecs, ils ont voulu faire un roguelike, je pense pas qu'ils soient débiles, ils ont joué à des roguelikes comme Binding of Isaac, par exemple. Enfin, ça se voit, ils ont joué à Binding of Isaac, hein, c'est clair et net précis. Quand t'as joué à un roguelike, tu sais que la formule qui marche, c'est de mettre plein d'objets, plein de boss, enfin, d'avoir un contenu tellement riche qu'à chaque fois que tu recommences, tu redécouvres le jeu. Et il y a un gros problème de conception sur ce roguelike, c'est que comme il est pas fini, tu te retrouves dans une situation paradoxale où t'as un roguelike qui est très long par rapport à la moyenne des roguelikes, où tu te retrouves avec tout le temps les mêmes builds et où le jeu, en plus, t'habitue à jouer tout le temps le même type de build, ouais, tu vois. Ce qui n'est pas intéressant dans un roguelike, en fait. Et limite, tu pèses quand le jeu t'impose de jouer avec autre chose, alors que normalement, c'est censé être ça, le sel du jeu d'un roguelike. Donc pour moi, il y a vraiment un problème de finition qui se voit d'autant plus que, on en discutait tout à l'heure, le jeu, il y a encore des trucs énormes qui sont patchés, qui sont changés à l'heure actuelle. Ouais. Par exemple, nous, on a joué à la version vanilla avec Membrane. Pas la version patchée, version vanilla. Le dernier patch qu'il y a eu, là, ils ont carrément changé une règle qui faisait que quand tu terminais le jeu, en gros, t'étais pas du tout récompensé, hein. C'est-à-dire que t'avais limite plus intérêt à perdre la run et tu gagnais plus de choses quand tu perdais que quand tu finissais la run, où là, par contre, tu pouvais quasiment rien conserver pour la run suivante. Bon, ils ont fait un patch à l'arrache où tu conserves tout ton inventaire. Sauf que ça, d'un point de vue équilibre du jeu, qu'est-ce que ça va faire à tous les coups? Ça va faire que tu vas rouler sur le jeu, en fait. Parce que les gens, ils vont conserver les items les plus pétés, ils vont aller à la run suivante, ils vont rouler sur Mormo, quoi, en fait. Donc, enfin, il y a vraiment un souci de réflexion, de finition, et je trouve pas ça normal que un jeu fini, normalement, comme ça, on en soit encore à faire des changements aussi radicaux pour un roguelike, quoi. Et ça, c'est un changement parmi d'autres, hein. Par exemple, ils ont allongé le nombre de jours. Toi, tu dis 4, mais maintenant, c'est 5, hein.
Ouais, maintenant, c'est 5 sur le mode normal. Au-delà des bugs, parce qu'on en a eu des bugs, hein, et des bugs parfois très sales, j'irai même plus loin. Je pense que le jeu, il est pas fini de conceptualiser, en fait. C'est-à-dire que quand le développeur a mis en place du coup cette nouvelle règle comme quoi quand tu finis ta run victorieuse, bah tu gardes ton inventaire. Déjà, un, il a prévenu personne. Deux, il dit « Ouais, je suis intéressé de voir ce que ça va donner. » Mais mec, pense-y avant que tu lances ton jeu quand même.
C'est un accès anticipé, c'est fait pour ça un accès anticipé, quoi.
Quand tu vois la liste de bug fixes qu'ils ont fait, franchement, tu te dis c'est un accès anticipé le jeu. Et c'est dommage parce que sur les 6 premières heures de jeu, sur mes 2 premières runs, moi j'étais vraiment sous le charme du jeu.
J'ai jamais vu Mordrain comme ça. Hein. Il était là à tout le temps m'envoyer des messages. Il kiffait à fond le jeu. Puis j'ai vu la dégradation, si vous voyez, au fur et à mesure.
Ouais, c'était devenu obsessionnel. Et alors, effectivement, forcément, quand tu t'obsèdes sur un truc qui est finalement assez moyen, bah tu vois très très vite ces défauts et du coup tu commences à les détester très très vite aussi ces défauts-là. Je suis quand même allé jusqu'au bout parce que j'avais envie de voir quelle était la véritable fin. J'ai été très déçu évidemment par la véritable fin.
Quand je suis sûr que t'as lu toutes les tablettes de l'or.
Putain, ça aussi c'est un scandale. Mais du coup, ouais, c'est dommage parce que c'est un jeu que j'avais envie d'aimer et qui au final n'a pas été assez bien pensé pour que je l'aime vraiment, quoi.
Mais
c'est
dommage. Il laisse un goût amer, en fait.
Ouais, il laisse vraiment un goût amer parce qu'il y avait tellement mieux à faire de ce jeu-là.
Tu dis, avec cette DA, cette musique, cette ambiance, il y avait tellement moyen de faire autre chose et franchement, je me dis, mais il fallait pas faire un roguelike, en fait. Moi, quand je le vois, le jeu, je me dis, il fallait faire un Zelda-like, quitte à être classique, tu vois. Le point fort du jeu, en fait, c'est tous les points que, au final, tu y fais pas tellement attention dans un roguelike.
C'est vrai. Mais tu sens, en fait, que c'est un jeu qui a pas eu de thunes.
C'est ça.
Parce que il est coincé, en fait, entre le tout début d'un Zelda-like, finalement, parce que c'est vraiment ça, hein, et un roguelike qui est trop light et qui, du coup, parfois est trop allongé, alors qu'il devrait pas l'être. Et au final, ça m'a presque fait penser, en fait, à un Zelda-like qui n'a pas eu la thune de devenir un vrai Zelda-like, et du coup, il s'est retranché finalement sur un roguelike.
Bah, t'imagines la réunion, bon les mecs, on a plus de pognon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait un roguelike, tu vois.
Mais franchement, ça sent ça, en fait. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage.
Ouais, c'est vraiment dommage. Voilà, c'est tout pour The Swords of Zito. On va maintenant enchaîner sur l'Instant Pixel. L'Instant Pixel, c'est un jeu qui a été très critiqué, n'est-ce pas ? Comme je vous l'ai dit, c'est sacrifié pour vous. Et ce jeu, c'est Metal Gear Survive. Pixel, peux-tu nous faire un petit topo, n'est-ce pas ? Rappelons le contexte autour du jeu. Metal Gear Survive, c'est quoi ? Pourquoi ça s'appelle Metal Gear, déjà, hein ?
Bah, déjà, c'est pas un jeu Metal Gear. Je tiens à te le dire tout de suite.
Ah, si, ça s'appelle Metal Gear, c'est un jeu Metal Gear, monsieur.
Non, c'est pas un jeu Metal Gear, c'est un spin-off. D'accord, c'est un spin-off de Metal Gear. Et on va d'abord commencer par le contexte hein, qui entoure un peu le jeu, parce que il y a quelques années de ça, Pachinko Konami, notre société japonaise préférée, qui fait du pachinko maintenant, voilà, que tout le monde adore, nous sort une news nous disant que, voilà, on va sortir un jeu de survie qui s'appelle Metal Gear Survive. Et là, l'internet mondial s'est foutu de leur gueule. Qu'est-ce qu'ils nous font, ces mecs-là ? Ils font du pachinko et des salles de sport, qu'est-ce qu'ils viennent nous foutre avec du Metal Gear Survive maintenant ? Et moi le premier, je dois le dire. Et puis, ils commencent à balancer les premiers trailers. Ouais, c'est une espèce de jeu de survie, du tower defense, pourquoi pas. Et puis le jeu finit par sortir. Et là, je regarde des vidéos de gameplay de joueurs, je me suis dit, ce jeu, il commence à me plaire. Mais, ça me fait chier quand même de l'acheter déjà, 40€, c'est cher, pour ce que c'est. Et puis, bon, Konami, c'est plus Konami, c'est Pachinko Konami maintenant, ils font du pachinko. Moi, j'en avais rien à foutre en fait de l'histoire entre Konami et Kojima, j'en ai... Surtout que Kojima, c'est loin d'être un saint, mais on n'est pas là pour parler de lui. Mais c'est surtout parce que Konami n'était pas super sympa avec ses employés, surtout ses anciens employés, parce que j'ai des trucs absolument incroyables. Ce sont des témoignages d'anciens employés de Konami.
Bah notamment, ils ont fait pression, je crois, sur des organismes de retraite.
Ou bien ils ont mis des employés à faire le ménage alors qu'ils étaient à la place programmeurs. Enfin,
c'est très sympathique comme société.
Dis quand même, moi, peut-être que enfin l'histoire par rapport à Konami et Kojima, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, c'est sûr que Konami n'est pas blanc non plus, et je pense pas que Kojima soit aussi tout blanc non plus. Hein, parce que si l'on virait, c'est bien pour une raison, quoi.
Voilà, donc je me suis dit, ça me fait chier quand même de donner de l'argent à une société qui tape sur le bout des doigts de ses employés avec une règle en fleurs rouillées, quoi, tu vois le genre. Le temps passe, et je me suis dit, bon, d'accord, Kojima, j'en ai rien à foutre, et puis, bon, c'est pas que j'en ai rien à foutre des employés, mais je me suis dit... Ce jeu, j'ai quand même envie d'y jouer, et si je mettais de côté, en fait, mes griefs envers Pachinko Konami, et
oui,
que j'achetais le jeu.
Oui, tu mettais aussi de côté les petits soucis en termes de microtransactions qu'il y a sur le jeu.
Oui, bah, je vais y revenir. Je vais y revenir. Ne t'inquiète pas. Et donc, je me suis dit, bon, je vais acheter le jeu, mais je vais pas l'acheter 40€ parce que je me suis dit, 40€, c'est quand même cher, quoi. Donc, je l'ai trouvé à 25€. Voilà. Je l'ai pas acheté sur Steam, hein, vous en rendez compte.
Non mais on a bien compris que tu l'avais acheté sur un site de clé, c'est bon, next.
Voilà, je l'ai acheté sur un site de clé et j'ai dépassé les 190 heures de jeu.
Très bien.
Donc c'est que j'ai quand même relativement bien apprécié le jeu. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire le test et de vous en parler justement aujourd'hui. Je vais d'abord parler du scénario parce que c'est le truc le plus rapide et le plus mal fait dans ce jeu parce que le jeu est plein de tares.
Ah bon, il y a un scénario dans Metal Gear
Solid.
Ouais,
il y a un scénario dans Metal Gear Solid.
Ah bon, il y a un scénario dans Metal Gear Solid Phantom Pain.
Oh, non,
tu es très méchant.
On ne rentre pas dans ce débat-là, s'il vous plaît.
Tu es très méchant.
Le scénario de Metal Gear Solid Pixel.
Alors, le scénario, en fait, prend place juste après l'attaque de la Mother Base dans The Phantom Pain. Mais toi, tu fais partie des militaires, en fait, qui étaient sous les ordres du Big Boss. Le personnage que tu crées est récupéré par une organisation plus ou moins secrète. Qui va t'envoyer en fait via un trou de ver ailleurs pour savoir ce qui est devenu en fait l'unité Sharon. Et ça, c'est le scénario principal de Metal Gear Survive. Alors, il est à la fois extrêmement simple et extrêmement confus. Il est extrêmement confus parce que la façon dont le scénario est raconté est extrêmement confuse dans les dialogues qui ne mènent nulle part et les cinématiques qui n'apprennent pas grand-chose non plus.
Bah, jusque-là, on est raccord avec le jeu de base. Hein.
En même temps, j'ai envie de te dire, Pixel, tu joues pas un jeu de survie pour son scénar, hein, voilà. En général. Enfin, regarde tous les jeux de survie qui sont sur le marché.
Sauf si tu joues à Subnautica.
Non, mais là, Subnautica, c'est un jeu de survie solo qui a été pensé pour avoir une histoire, etc. C'est quand même assez différent.
Et c'est l'exception qui confirme la règle,
tout
ça.
Tout à fait.
À noter que ton personnage, que soit homme ou femme, est muet. Il ne balance pas une seule parole dans le jeu. Voilà. Donc, Metal Gear Survive, un scénario, mais on l'oublie très vite et on y joue pour son gameplay, d'abord en solo. Alors, le jeu au début est vraiment très difficile parce que tu es à poil, tu es niveau 1 parce qu'il y a des éléments de RPG. C'est un vrai jeu de survie, avec des vraies mécaniques de survie. Ton personnage peut mourir de la faim, il peut mourir de la soif, il peut mourir de ses blessures, il peut mourir de maladie. Et il peut mourir aussi s'il a court d'oxygène. Les ressources sont très rares. Quand tu commences à manquer d'eau et de nourriture, tu commences à avoir une vision trouble, ta vitalité maximale et ton endurance maximale baissent de façon continue, et il faut crafter des médicaments pour pas tomber malade. Le jeu est divisé en 24 chapitres, et les 12 premiers chapitres, en fait, c'est du tutoriel, mais c'est pas du tutoriel en couloir, j'ai envie de dire, parce que tu es quand même libre d'explorer la carte comme tu veux, mais tu seras limité parce qu'il y a des zones où tu pourras pas aller, parce que tu auras pas surtout la bonbonne d'oxygène qui va te permettre de pouvoir respirer, en fait, dans des zones extrêmement toxiques, quoi. Après, je ne sais pas, en fait, si c'est voulu par les développeurs ou si c'est vraiment mal foutu. Je tiens à le dire, les 2-3 premières heures de jeu, tu as que la lance, et le premier blueprint, en fait, que tu vas récupérer, c'est celui du grillage, donc tu vas créer que des grillages. Et les ennemis, ils vont se taper contre le grillage, c'est vrai qu'ils sont un peu cons, même très cons, mais séparément. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont en horde, ils vont vraiment être extrêmement dangereux, et ton grillage, il va durer 2 secondes. Parce qu'ils vont te le casser, ils vont passer au-dessus du grillage.
Alors, juste une question, Pixel, parce que, enfin là, je t'entends parler du jeu. Pour le moment, en fait, j'ai du mal à le voir ce qu'il distingue des 3 milliards de jeux de survie qui existent actuellement. Là, par exemple, quand tu me parles de ça, j'ai des images qui me viennent en tête de Morren et Mamie Lemmy en train de jouer à Seven Days to Die et de poser des pics un peu partout autour de chez eux, quoi. Du coup, c'est quoi qui, en termes de gameplay, lui permet de sortir un peu du lot, quoi?
J'ai envie de dire sa maniabilité de MGS, qui est parfaitement adaptée au jeu. Alors, il se démarque pas vraiment des autres jeux de survie, bien entendu, mais il a ce petit cachet MGS via le moteur, via la maniabilité qui fonctionne, le jeu tourne au quart de poil au niveau de la maniabilité. La partie solo, moi, personnellement, je me suis jamais fait chier, je crois que j'ai mis 35 ou 40 heures pour le finir, le solo.
Juste à titre d'information, c'est quoi ton expérience en termes de jeux de survie, sur le genre c'est quoi tes références pour toi, ce genre de choses?
Bah, j'en avais parlé déjà, j'en avais fait un test il y a quelques temps, c'était The Forest, qui a les mêmes mécaniques de jeu, mais qui a la première personne, et qui est beaucoup plus classique, on va dire, au niveau technologique. Au niveau survie, ouais, c'est mon seul jeu de survie auquel j'ai vraiment...
Que t'as vraiment poncé?
Que j'ai vraiment poncé, quoi. Et Metal Gear Survive, il est dans le même genre. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a 2 boss dans le jeu, en tout cas au niveau solo, hein. Les 2 boss, c'est juste de la blague. Je tiens à le dire tout de suite. Le premier boss, il est à taille humaine. Il est facile à avoir. Le deuxième boss, c'est un boss gigantesque, en plusieurs phases. Et c'est juste de la blague. Son design, il est ridicule. Ils avaient pas d'ambition. Je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est juste une horreur. Mais il y a un truc extrêmement bien par rapport à The Forest. C'est qu'une fois que tu finis le jeu, j'ai envie de dire que t'as du contenu endgame qui se débloque. Parce qu'au début, tu n'as qu'une classe, c'est la classe survivant, que tu montes jusqu'au niveau 40, et tu vas pouvoir débloquer 4 sous-classes supplémentaires, qui vont permettre d'avoir plus de vie, plus d'endurance. C'est des sous-classes, en fait, qui sont piquées des MMO, parce que tu vas pouvoir créer un médic, tu vas pouvoir créer un tank, tu vas pouvoir créer un sniper, enfin, un sniper, on va dire ça comme ça, et le mécano. Et tu as 2 boss inédits supplémentaires, qui sont optionnels, t'es pas obligé de les battre, mais si tu les bats, t'as quand même des bonus supplémentaires, donc c'est quand même bien de les battre, et ils sont chauds, ils sont vraiment chauds à avoir. Donc c'est pas, le mode endgame, c'est pas, il est pas pourri, mais c'est pas génial non plus, mais il a le mérite au moins d'exister.
Bon, du coup ça c'est pour le solo, on va passer au multi, qu'est-ce que ça ajoute en plus
Alors le multi, c'est que de la coop à 4, alors je tiens à dire tout de suite, pour la version PC de Metal Gear Survive, en ce qui concerne le multi, les jours de rush, au niveau mondial, il y a moins de 500 joueurs.
Gros succès, du coup.
Ouais, gros succès, on peut dire ça. Alors, je peux confirmer, hein, ça fait déjà plusieurs semaines que je joue au multi. C'est pas facile de trouver des gens pour le multi. Ça, c'est un truc qui est extrêmement chiant, c'est que c'est pas facile de trouver un truc pour le multi.
Et j'ai une question à te poser pour le jeu. Est-ce que pour jouer au multi, il faut aussi payer comme pour changer de personnage ou pas?
Non, tu utilises ton personnage, en fait, du solo. Tu peux passer du mode solo au multi, du multi au solo. Tout se conserve, en fait. Tout ton matos se conserve.
Ouais, parce que pour changer de personnage en solo, il faut payer 10 euros, c'est ça?
Ouais, ça c'est pour les microtransactions, mais j'en parlerai après, en fait. Dans le mode multi, tu peux choisir ta mission. Alors, t'as plusieurs types de missions. Tu as les missions de sauvetage. qui sont en fait des missions où on va demander d'aller sauver un survivant et de l'amener d'un point A à un point B, dans le temps imparti. Tu as les missions quotidiennes et hebdomadaires, et c'est aléatoire. Et ensuite, tu as les missions en fait permanentes, où c'est toujours les mêmes maps. Mais, il y a un truc intéressant, c'est que toutes les missions du multi, quel que soit le mode, tu peux y jouer en solo. Et les missions de tour en défense, en fait, tu démarres la mission, à seul ou à plusieurs, et ça se passe en trois parties. À chaque nouvelle attaque, les monstres sont plus nombreux, et ils sont plus agressifs. Et il y a surtout des monstres beaucoup plus puissants qui arrivent, et en plus grand nombre. Et là, c'est pas du tout comme en solo, où au début, t'as juste un grillage et une lance. Là, les mecs, ils vont arriver par dizaines, et ton grillage et tes protections, ils vont te les arracher en deux secondes. Donc en multi, les missions de tour de défense, elles sont vraiment bien, parce que tu ressens vraiment de la tension, surtout dans les niveaux de difficulté les plus élevés, parce que les ennemis, quand ils sont éparpillés, ils sont pas très dangereux. Mais une fois qu'ils sont regroupés en horde, là, tu sens la pression augmenter, et il faut regarder à 360 degrés, parce qu'ils peuvent arriver de partout. C'est du tour de défense classique, mais c'est du tour de défense qui fait le job et qui le fait bien.
Du coup, d'un point de vue technique, ça donne quoi ?
Alors ça utilise en fait le moteur de MGS5, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le même moteur, les mêmes modèles 3D, les mêmes effets graphiques. Alors c'est un moteur qui a quand même un peu vieilli, hein. Ça fait déjà 2 ans et demi que MGS5 est sorti, donc il n'y a pas eu d'upgrade graphique de la part de Konami, hein. C'est vraiment le même moteur qu'il y a 2 ans et demi, ça a le mérite de bien tourner, c'est bien optimisé, hein. Moi j'ai une GTX 970, et le jeu il tourne à nickel à 1080p, 60fps avec tous les détails à fond, c'est rarissime que j'ai des ralentissements. Généralement, les ralentissements, c'est pendant les missions de tour en défense, où les mecs, ils arrivent par paquet de 12, et là, t'as des gros effets de poussière ou d'éclats, en fait. Sans quoi, il n'y a pas de ralentissement vraiment notable, donc c'est vraiment bien optimisé, et ça, ça fait plaisir. Mais par contre, les personnages modélisés sont vraiment moches. Et les animations faciales sont d'une autre époque.
Ouais, donc ça tourne bien, mais c'est moche.
Ça tourne bien, mais c'est moche.
D'accord.
Les maps, en fait, c'est les mêmes maps que MGS5, ils ont modifié un peu la map pour ajouter des bâtiments, en fait. Graphiquement, ça tue pas la rétine. Pas du tout. J'ai envie de dire que c'est propre. C'est propre, ni plus, ni moins.
Ok, et donc pour conclure, tu retires quoi de ton expérience sur le jeu ?
Voilà, si j'ai passé plus de 190 heures de jeu, c'est que j'ai quand même apprécié le jeu. Le jeu a des défauts. Il a beaucoup de défauts. Il a des microtransactions. J'en ai pas parlé, mais je vais en parler justement. Les microtransactions, c'est vraiment des microtransactions de la honte. Pour avoir un deuxième slot de personnage, il faut 1000 SV coins. Et 1000 pièces SV, bah, c'est 10 euros. Donc si tu veux 4 slots de personnage, bah, c'est 30 euros. Dans ta base, tu vas pouvoir créer en fait des escouades de 4 personnes maximum que tu vas pouvoir envoyer sur la map pour qu'ils aillent te chercher des ressources. Au début, t'en as 4. Tu peux en avoir 8 au maximum, mais les 4 restantes, en fait, vous aurez compris, il faut payer avec des SV coins et les SV coins, ça s'achète avec du vrai argent. C'est dommage. En fait, le jeu, il aurait pu être meilleur, d'une, si le jeu avait été moins cher. S'il l'avait fait à 20 euros au lieu de 40, ça aurait plu à beaucoup plus de gens. De deux, s'il l'avait pas nommé Metal Gear, ça aurait été beaucoup mieux perçu. Et de trois, s'il n'y avait pas eu les microtransactions de la honte, il aurait été mieux perçu aussi.
Bon, messieurs, on va s'arrêter là pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Ciao.
Ciao.